Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, c'est un podcast sur Sens avec Thomas. Thomas, ça va la pêche?
Ah oui, la pêche!
La pêche, la patate. Avec Aloïs.
Paix et prospérité sur ton peuple.
Et avec Adrien Cahuzac. Adrien, ça va la pêche?
Salut, salut!
Alors aujourd'hui, on va parler d'un... Je pense que c'est un podcast qui pourra s'adresser aux joueurs. Aux joueurs qui débutent sans néant.
Ça va dépendre de la quantité de spoil qu'on met dedans.
Voilà, mais logiquement...
Que l'on va viser à tendre vers zéro.
Voilà, on va essayer de tendre vers zéro, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de faire un podcast sur comment incarner un Setantra. Qu'est-ce que l'on incarne lorsqu'on incarne un Setantra?
Ça, c'est du sujet.
Merci.
Et je pense que la première base pour aborder ce sujet, ça reste quand même d'aborder les sensations différentes qu'ils ont. Non, vous ne croyez pas?
Oui, il faut commencer par là,
je pense. Et puis ensuite, éventuellement, une fois qu'on a abordé les sens qu'ils ont, aborder leur histoire.
L'objectif de chaque Setantra, un petit peu comment vivent les Setantra de base avant de parler de ce que le joueur peut en faire.
Ouais. Alors toi, Thomas, t'avais annoncé un plan au début du podcast, j'étais en train de faire mes réglages, donc j'ai pas entendu. T'avais dit on va aborder les enjeux des personnages.
Ouais, je pense que ce qu'on va essayer de faire, donc, c'est aborder les problématiques que les Setantra apportent dans Sens Néant.
D'accord, ouais. Vous voyez, on est en train de faire notre plan.
On est en train de faire notre plan en même temps. C'est interactif.
La préparation du podcast en direct.
En direct, voilà, exactement.
Il va falloir aussi montrer les. Alors, les problématiques, c'est aussi les interactions qu'un Setantra peut faire dans le monde.
Sa relation au monde.
Parce qu'en fin de compte, on a beau jouer des humanoïdes ayant des sens supplémentaires, on va vivre de nouvelles choses.
Oui.
Ensuite, il va falloir aussi aborder la nudité, parce qu'un Setantra est nu.
Ouais, éventuellement leur...
La sexualité aussi.
Ouais, leur sexualité. Alors, les us et coutumes, j'ai envie de dire. Et puis, aborder un peu leur vie au quotidien. Ça, c'est très, très important, parce que c'est probablement un des sujets qui pose le plus de problèmes aux nouveaux joueurs.
Clairement. Et pas qu'aux joueurs, parce que
leurs sensations différentes impliquent des responsabilités et des enjeux différents quant à leur survie. Et donc, du coup, c'est très, très difficile d'imaginer ça. Alors, on va commencer tout de suite par les sens. Qui veut se lancer sur le Mantis et sur l'Alvéa, qui sont les deux sens supplémentaires? Adrien, est-ce que tu as envie de te lancer?
C'est parti.
Allez, c'est parti.
C'est parti.
La patate chaude.
Alors, les Setantra, et d'ailleurs quasiment tous les Myriadiens, ont un sens qu'on appelle le Mantis,
oui,
qui est un sens qui leur permet de lire directement les sentiments de tout ce qu'ils ont face à eux. Ça peut être effectivement un autre Setantra ou un Myriadien, ça veut dire un être de la planète, mais ça peut être aussi un caillou, le sol, une brise d'air,
c'est
etc.
C'est des Myriadiens.
Voilà, c'est la preuve que tous l'ont, Thomas.
Ouais, ça veut dire qu'en tant que sentiment... Quand je suis Setantra, si je vois un autre Setantra, je sais s'il m'aime bien, si on peut avoir un peu plus de discrétion, parce que c'est sentiment...
Absolument, c'est ça, exactement.
Et puis surtout, les échanges que l'on va faire avec un autre Setantra, le dialogue qu'on aura, ça ne va pas être vocal, mais va être par sentiment. Du coup, ça va être beaucoup plus riche, beaucoup plus profond, et les joueurs vont aborder ça de façon quand même anthropocentrée.
Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire, on va y donner des mots derrière, voilà. Mais... ce sont des sentiments.
Voilà, les joueurs vont traduire leurs sentiments.
C'est-à-dire que là, les joueurs sont en train de créer une fiction comme d'habitude.
C'est ça.
Mais en fin de compte, c'est pas vraiment ce que font les Setantra.
Voilà, c'est ça.
Là, quand tu parles de sentiments, je suis en train de dire haine, amour.
Typiquement,
c'est pas ça.
Je donne un exemple. Si un Setantra dit la clé de la porte se trouve derrière la colonne, par exemple, tu as un joueur qui fait dire ça à son Setantra. Si on était Setantrien, on entendrait l'élément que je déteste est situé derrière la colonne que j'admire dans la pièce qui me fait peur, par exemple.
Techniquement, tu le vois.
C'est ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les descriptions objectives que pourraient faire des êtres humains pour les Setantriens sont totalement subjectives.
Oui.
Et c'est un des enjeux, d'ailleurs.
Ça, dans le jeu, sinon, on garde notre anthropomorphisme.
Oui, de toute façon, voilà. L'anthropomorphisme fait que souvent, le mantis devient une parole ou une vue.
Et puis, c'est aussi une belle problématique.
Et puis ça va plus loin, parce que du coup, les sentiments sont amenés à être, transformés, ou en tout cas imaginés sous le biais des éléments. Oui. Donc typiquement, le feu va symboliser tous les sentiments de colère, l'eau, tous les sentiments de calme, l'ombre, tous les sentiments de doute, la lumière, tous les sentiments de certitude, de dogmatisme, l'air, plutôt la liberté, le papillonnage, l'insouciance, et puis enfin la terre, la confiance, la solidité, la robustesse, la résistance, etc. Et donc du coup, ça va quand même permettre cet anthropomorphisme, à savoir la traduction par les joueurs de ces sentiments et les éléments vont permettre de créer de la fiction dans ce sens-là. Alors on fera peut-être tout un podcast sur le mantis. Mais déjà,
ouais, voilà. Et donc voir en gros, pour continuer, ce mantis, il a une zone d'effet plus ou moins grande selon la force du sétantra, selon à quel point c'est un sétantra ancien, abouti.
Ce qu'on appelle son rayonnement sur l'affiche.
Son rayonnement.
Tout à fait.
Et ainsi, un petit brin d'herbe pourra interagir avec les petits brins d'herbe voisins ou avec le sétantra qui s'en préoccupe. Mais la montagne pourra avoir une influence à très longue distance.
Aloïs.
D'ailleurs, le rayonnement, ça me fait penser que les sétantras mesurent les choses en diamètre.
Tout à fait. Par exemple, c'est un des éléments de décor qui découle du mantis. Mais il peut y en avoir bien d'autres. Il y en a plein d'autres.
C'était juste la petite anecdote pour les joueurs.
Ouais. Effectivement, la forme parfaite, c'est pas, contrairement à nous qui sommes dans des géométries euclidiennes et qui partons toujours des angles droits, quand on regarde par exemple les architectures humaines, les septentriens ont plutôt tendance à partir du cercle qui pour eux est la figure la plus parfaite. Mais bon, ça c'est déjà des points de détail par rapport au mantis. Mais évidemment, on verra ça peut-être dans les enjeux culturels et les us et coutumes.
Ouais.
La vision par le mantis, enfin la vision, le monde conçu par le biais du mantis implique des changements radicaux et des problématiques différentes.
Et sachant, donc, sur le mantis, il y a un dernier point qui est que, du coup, d'autre part, les sentiments sont aussi ceux dont sont constitués les sétantras. Et donc, quand on communique avec un sétantra, en fait, on lit qui il est. Donc, on voit la couche extérieure, celle qu'il veut nous présenter, c'est ce qu'il nous dit. Mais ensuite, avec le mantis, chaque sétantra, chaque myriadien peut essayer de lire plus en profondeur dans un être, à condition que cet être soit d'accord, et ainsi en apprendre plus sur celui-ci.
Thomas,
un peu comme un oignon. On a des couches, et à la couche supérieure, c'est ce que les sétantras vous voient.
C'est ce que les sétantras montrent et voient.
Faut enlever l'oignon, les pelures d'oignon.
Jamais fait la comparaison avec l'oignon. Non, jamais, mais ça fonctionne.
C'est comme l'estimation de l'âge des arbres, sinon. Mais alors là,
ou un livre.
On peut violer quelqu'un.
J'avais plutôt pensé aux strates géologiques du sol, en fait, à la base.
On peut lire les couches de quelqu'un sans son autorisation. C'est juste que c'est très, très, très mal vu. Ça équivaut à du viol pour eux parce que tu pénètres leur intimité sans leur.
On abordera peut-être ça dans les us et coutumes des clients, encore une fois.
Si on est d'accord. Donc c'est
mais on est d'accord là-dessus. Alors, l'Alvéa maintenant, qui est le deuxième. Alors, si, dernière petite chose sur le mantis, quand même, c'est qu'il faut dire que c'est l'équivalent de nous, de ce qui leur permet la subsistance. Donc, c'est notre équivalent de nourriture également. C'est-à-dire que les septentriens ont besoin pour survivre de ressentir les éléments.
C'est un peu un sens fourre-tout. C'est-à-dire que derrière le mot mantis, on y met la communication, on y met ce que l'on ressent, on y met. Le mantis, c'est aussi qui on est nous. C'est un mot valise dans lequel on va mettre plein
absolument,
de trucs.
Absolument, tout à fait. C'est un peu le TGCM, ta gueule c'est menti, c'est un peu
c'est
dans
ça.
de sens néant. Ok, l'Alvéa maintenant, qui veut se lancer sur l'Alvéa?
Je veux bien, moi.
Allez, Aloïs.
Donc l'Alvéa, c'est la seconde vision des sétantras tout au long de l'histoire. Donc ils ont la vision normale qui est par la paire d'yeux supérieure, qui a tendance à être de la couleur de leur élément, si je me rappelle bien.
Oui.
Et ils ont une deuxième paire d'yeux qui est située un peu plus bas sur le visage, plutôt de la couleur de l'ombre, si je me souviens.
Je
les interprète comme étant un peu violacés.
C'est ça, moi aussi. Ouais, pareil. Et tout ce qu'on sait, c'est que c'est ces alvéas qui déterminent, parce qu'ils ont tous plus ou moins le même visage. Après, les corps peuvent changer en fonction des mantis. Et donc, du coup, c'est les alvéas qui déterminent en fait l'apparence, la beauté physique du sétantrien. On ne regarde que les yeux pour savoir.
Et donc, c'est ce sens qui va permettre aux joueurs, et à leur simulacre et au golem, du coup, de percevoir ce qui se voit dans les ombres. En le sens que les ombres dans Sens Néant, c'est plus ou moins la créativité. C'est la projection de ce que pense le sétantra.
Exactement.
C'est
le rêve, en fait.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pas ce que pense le sétantra, c'est plus l'inconscient du sétantra.
Oui, c'est ce que j'entends, mais c'est pour simplifier quand
le
même.
Le sommeil.
Ah oui, mais c'est pas pareil, la pensée, l'inconscient.
Bah, c'est une pensée inconsciente, quoi. Il y a quand même une. Enfin...
C'est compliqué parce que l'inconscient est quand même attribué à quelqu'un. C'est l'inconscient de quelqu'un.
Oui, bien sûr. Mais justement, ce qu'il y a, c'est que les sédentrains n'en sont pas. C'est pas un processus qu'ils contrôlent.
C'est ce qui préoccupe. C'est ce qui a tendance à préoccuper le personnage sur le moment.
Mais c'est pas parce que tu ne contrôles pas que ça t'appartient pas.
Ah oui, non, j'ai pas dit ça. C'est juste que le mot pensée, pour moi, induit
un
phénomène de contrôle sur le.
D'accord, ok. Donc, je sais pas, ça se discute. Donc,
voilà. Dans les ombres.
Tu contrôles tes pensées, Adrien. T'es quelqu'un de très très fort. Si tu me dis, je contrôle. Bah, alors
mais,
vas-y, mais, arrête mais, de penser, s'il te plaît, 30 secondes.
Mes pensées, j'ai un impact dessus. Je peux les influencer. Si, bah,
oui,
si.
Tu peux les orienter éventuellement. Mais...
Tandis que pour moi, l'LVA, c'est quelque chose qui est comme un rêve, en fait, qui coule tout
seul. Est-ce que ce que tu contrôles, c'est tes pensées ou c'est ce que tu révèles de tes pensées? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu contrôles vraiment ce à quoi tu penses? Non, mais c'est. T'as l'air de me
j'en
regarder,
rien,
genre c'est un faux
pas.
Débat et c'est peut-être pas le lieu
non,
pour le débat,
non,
mais
non.
En fait, ça fait partie des débats effectivement soulevés par Sens Néant, je pense.
Moi, j'ai pas de réponse là, mais de toute façon, c'est
plus,
pas trop le sujet.
Non, moi non plus, carrément. Aloïs.
Donc, en gros, c'est une projection de leur inconscient et de leur volonté aussi sur une partie du monde, la partie du monde qui est dominée par l'élément du doute, en fait. C'est la façon de l'ombre d'instiller. Des choses dans le sétantra, par exemple. Un sétantra qui va avoir perdu un être qui lui est cher, il y a des chances qu'il le voit dans l'ombre. Mmh. Et que en fait, c'est les ombres qui l'appellent « Viens nous rejoindre, viens. » C'est un message un peu pernicieux de « N'oublie pas, en fait. »
Une particularité des ombres aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le joueur qui décrit les ombres de son personnage et que chaque... personnages simulacres différents voient dans les ombres des choses différentes. Typiquement, si on regarde nous quatre, on regarde dans une même zone
d'ombre. Si on ferme les rideaux et qu'on éteint la lumière.
Voilà, et ben chacun d'entre nous verra des choses différentes parce que chacun d'entre nous a des projections, des pensées inconscientes, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas un inconscient qui se projette dans l'ombre de façon différente.
Et notamment, ils le perçoivent réellement, c'est-à-dire que votre Alvéa supprimera votre vision.
En fait, je pense que les deux se superposent et ils n'arrivent pas à distinguer ce qui est issu de leur vue et ce qui est issu de leur alvéa.
Tel que c'est écrit dans la base, il me semble qu'ils sont capables de se prendre les meubles s'ils se déplacent dans une pièce qui est plongée dans l'ombre.
Voilà, donc c'est exactement ce que
c'est ce que je dis.
C'est que finalement, ils savent pas trop.
Les deux se superposent.
Bah, pour moi, il y a clairement une domination de l'alvéa.
Comment ça?
Ils voient pas.
Oui, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, dans le noir absolu, tu n'as pas de vue. Du coup, il n'y a que l'alvéa.
Mais enfin, dans une zone où il y a l'ombre. Même si tu vois normalement l'ombre l'alvéa à la prédominance et du coup bah tu fais pas attention à ce qui existe réellement en fait.
Thomas,
je me souviens bien dans les sétantras, ils ont donc la vue classique et les alvéa et quand l'un est fonctionnel, l'autre est éteint.
Ouais.
Ça, si je me souviens bien, dès qu'on arrive dans l'ombre, les yeux classiques se ferment et c'est les alvéa qui s'ouvrent.
Ah non, ils sont toujours ouverts et on ne peut jamais les fermer justement.
Ni
les mantis,
c'est
ni les
Adrien qui a raison, c'est-à-dire qu'il y a toujours une zone de flou. Tu regardes, eux, ils savent jamais vraiment où ils sont. Alors s'il s'avère que les ombres, par exemple, ne sont pas trop changeantes, ne bougent pas trop, les ombres peuvent très bien tromper un sétantrien au point de lui faire croire que c'est la réalité, le faire trébucher, le faire, etc. Ouais, mais c'est très rare.
En fait, je les rapprocherai peut-être.
D'ailleurs, ça veut dire que l'inconscient de cet entra souhaite qu'il tombe.
Ouais. Je les rapprocherai peut-être un petit peu de ce qui se passe dans l'ombre au monde. Quand les bugs regardent un décor, les grandes lignes sont là. Par contre, dans les recoins, dans les zones distinctes ou plongées justement dans l'ombre, il y a ces petits cadrans qui se glissent.
C'est ça.
Et en fait, c'est ça, c'est que le cet entra, quand il est dans une zone qui est un peu obscur, bah dans les coins sombres de la caverne qu'il est en train d'explorer, par exemple, il va voir ses fantasmes. Et dans les coins qui sont encore sous les rays du soleil qui passe au-dessus, bah, il va voir ce qu'il y a à voir.
Alors là, l'alvéa, vraiment, ça sert pour décrire ses rêves, décrire le sommeil et surtout pour se reposer mentalement. C'est-à-dire
c'est du sommeil éveillé.
C'est du sommeil éveillé. Donc le joueur, pour regagner ses points de rayonnement qui lui permettent d'effectuer des actions avec le mantis, a besoin chaque soir de se plonger dans l'ombre et de décrire au maître de jeu ses rêves, au meneur de jeu ses rêves, pour regagner ses points de rayonnement.
Et puis il y a l'autre chose qui peut arriver à l'alvéa, c'est l'harmonie des ombres, qui cette fois est décrite par le MJ. et qui c'est une espèce d'hallucination collective.
Ah, c'est un trip, déjà de Septentrien de l'ombre. Oui. Est-ce que ça existe? Est-ce que il y a vraiment des gens qui sont en harmonie des ombres? Est-ce qu'il y a que des ombres qui se ressemblent?
C'est des légendes urbaines.
C'est des légendes. Voilà, c'est un peu des légendes.
Des légendes méridiennes.
Voilà.
Mais c'est Père Noël et Septentrien. Mais
il faut avoir voyagé très longtemps ensemble.
Voilà.
Dans les rues.
Mais clairement, c'est une sorte d'idéal aussi à atteindre pour les Septentriens, de rêver ensemble et de un jour pouvoir. Finalement, faire en sorte que l'Alvéa devienne commun, un groupe.
Tout comme les Sétentras de lumière aimeraient tout comprendre, les Sétentras de l'ombre aimeraient que tout le monde rêve ensemble.
Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, c'est comme les gens qui voudraient mener un projet ensemble, etc. Oui, c'est ça. Donc voilà.
Un projet de domination du monde.
Voilà, déjà au niveau des sensations. Alors, on voit déjà, le mentis.
Alors, il y a un dernier truc qu'il faut dire là-dessus, c'est du coup, quels sont les autres sens qu'ils ont et qu'ils n'ont pas.
Alors,
pour moi, un Sétentra n'a pas le sens du toucher. Parce que ça, c'est l'équivalent du mantis, en fait. Il ne peut pas dire « je touche un caillou », c'est « il va rapprocher sa sphère du caillou ».
D'accord.
Ça, c'est juste un indaisant.
J'avais pas considéré.
Pour moi, ils n'ont pas non plus d'odorat et de goût.
Ah, ça, c'est évident.
Tout ça est,
ils n'ont pas de nez, pas de bouche.
Mais en fait, tous ces sentiments, toucher, odorat, goût, pour moi, se fondent dans le mantis quelque part.
Pour moi, ils ont le toucher quand même, parce qu'ils doivent soulever les objets. Enfin, ils sont amenés à soulever des objets pour les transporter.
Je suis un petit peu comme Aloïs là-dessus.
En fait,
soulever sans avoir la sensation que tu peux prendre la chose. Si tu vois cette table, que tu mets ta main dessus et que tu la sens pas, ça me semble quand même vachement plus difficile.
Okay. Bon, je te dis qu'un myriadien, pour soulever une table, il émettait des mantises de force ou de coups de terre pour rassurer ou.
Non, mais c'est vrai que les deux se tiennent. Si tu veux. Les deux se tiennent.
Dans tous les cas, c'est pas très important, parce qu'en tant que joueur, vous allez dire je porte la table, je tire une chaise. Et c'est à vous d'imaginer qu'en tant que Sétentra, c'est le mantis qui intervient.
Juste pour faire un tout petit commentaire quand même, Adrien, c'est que la preuve que moi je supposais que les Sétentriens aient le toucher malgré tout, c'est que j'ai fait un scénario entier là-dessus, dont je ne parlerai pas, parce que c'est pour les. Si on veut, c'est pas le cas. Mais souviens-toi, il y a quand même un scénar qui tourne autour du sens du toucher.
Oui, c'est possible, je m'en rappelle plus.
Tu t'en rappelles plus, c'est pas grave. Mais bon, voilà, donc en tout cas, je vois très bien. Oui, c'est ça.
D'accord.
Et donc, mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on peut tout interpréter par le toucher, par le mantis, et se dire finalement le toucher, c'est de l'anthropomorphisme. Je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est une interprétation possible. Après, ce qui compte surtout, c'est de comprendre que les Sétentriens n'ont pas le goût et l'odorat.
Ils n'ont pas de bouche.
Voilà, ils n'ont pas de bouche. Et ça, c'est important parce que du coup, toutes les scènes, genre.
Je souris pour montrer que je suis content, mais ils n'ont pas de bouche.
Voilà, c'est ça. Mais par contre, quand les joueurs disent ça. C'est que ça traduit en fait
un sentiment.
C'est
juste qu'il s'exprime pas visuellement, mais
par exemple, si votre meneur dit par exemple elle sourit, ça signifie en fait elle vous envoie un mantis de complicité et d'amabilité, enfin je ne sais pas comment le dire, d'approbation.
Et de lèvres tirées vers le haut.
Attention. Comme concept, le lèvre dans les Sétentrains.
Donc voilà, qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'autre comme sens? Louis, il la possède.
Il possède Louis.
Puisque voilà,
on sait que les Sétentrains de l'air font de la musique et justement écoutent. Ils ont une forme de chant. Parce qu'il faut savoir que chez les Sétentrains, le chant, la musique existe, mais c'est les chants, c'est du mantis.
Ouais.
Et seuls les Sétentrains de l'air ont inventé des instruments qui, quand on envoie de l'air à l'intérieur, émet un son.
Voilà, ou des instruments à cordes aussi.
Ou des instruments à cordes.
Ce qui montre d'ailleurs qu'ils ont dû toucher encore une fois, tu vois, il y a une sensation. Ouais. Mais bon, tout ça peut être traduit. Non, mais je suis d'accord avec toi, Adrien. Mais bon. En tout cas, je me souviens très bien que dans le premier sens, au D12, attention au moment émotion, au moment nostalgie, dans les Sétentriens, parce que sur les fiches de perso, il y avait sens plus rune plus talent, c'était le jeu. Donc, tu avais les sensations, le toucher, l'ouïe, etc. Et les Sétentriens avaient. Alvéa, mantis, toucher, intuition à l'époque.
Oh là là, ça c'est le score d'idées.
Savoir qu'en plus, Louis... goût odorat était toujours été la même, si je me souviens, c'était la même caractère. C'était pas ni goût ni odorat, c'était goût odorat.
Ouais, je sais plus, ouais,
je crois.
Crois
que c'était rattaché.
Ouais, je crois que c'était rattaché.
Odor.
Enfin voilà, pour la petite anecdote, les Sétentriens, en tout cas dans mon imaginaire, avaient du toucher. Après, je comprends la position d'Adrien, ça explique tout à fait. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ces sensations et à quoi elles servaient, on voit le mantis sert à se substanter, l'alvéa qui sert finalement à dormir, à reposer l'esprit, et puis on voit que ça implique aussi des relations différentes. On va peut-être parler un petit peu juste rapidement du background qui va servir quand même aux Sétentriens à...
Et Dieu créa le monde.
Voilà, fin du background.
Fin du background.
Merci Adrien.
Du background historique, tu veux dire
Oui, Oui. Le fait, par exemple, que les sétentriens soient attachés à la découverte de l'ultime sentiment, parce que derrière le mantis et derrière les couches de mantis, tous les objets peuvent être dévoilés, un petit peu comme
des
oignons.
Tout le monde est un oignon infini.
Voilà, exactement.
Et ils cherchent le cœur de l'oignon.
Ils cherchent le cœur de l'oignon ultime, à savoir le cœur du monde, parce qu'ils peuvent dévoiler une arme, et puis derrière l'arme, découvrir qui l'a créée, mais derrière celui qui l'a créée, découvrir qui l'a créée lui.
Voilà, découvrir l'arbre qui a servi à faire la crosse.
Voilà, c'est ça. Et donc le but, c'est de découvrir l'ultime sentiment, et pour cela, ils sont organisés en école de foi.
La cause première.
La cause première, voilà, c'est ça, ouais.
Mais est-ce que prendre un objet plus simple, c'est pas un moyen plus rapide d'arriver à l'ultime sentiment ?
Bah, c'est ce que soutiennent certaines personnes, oui. certains sétentras.
Il faut le trouver.
Bah, un caillou, c'est un objet simple.
Ah bah non, c'est déjà trop tard. Le caillou, il a déjà été transformé.
C'est déjà un objet complexe.
Mais bon,
si on en croit vite une chaîne.
Quoi qu'il en soit.
Donc en gros, pour prendre l'histoire un peu dans l'ordre, à l'origine sur Myriade, il y avait des Myriadiens. Point.
Adrien.
Et puis,
c'est quoi un myriadien ?
Tous les êtres vivants, les cailloux, les animaux, tout sauf les sédentras en fait.
Ouais.
Les sédentras sont uniques en ça qu'ils sont les seuls à disposer des six éléments dans leur larme.
Ils sont quand même myriadiens.
Oui, bien sûr.
Les sédentriens sont des myriadiens, mais les myriadiens ne sont pas nécessairement des sédentriens.
En fait, dans myriadien, il faut comprendre chose animaux, de la planète plantes. Myriade.
Voilà, c'est ça.
Exactement. Chose, c'est tout.
Comme nous, on parlerait de créatures terrestres.
Même plus que créatures, de choses venant de la Terre.
Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, il y a de cela fort longtemps, les premiers sédentrants sont apparus. Il n'y a pas trop de raisons à leur apparition. Sans doute l'amour d'un petit cours d'eau pour une coulée de lave au milieu d'une forêt. Enfin voilà, une génération spontanée, un petit hasard, un petit quelque chose. Et donc ces premiers myriadiens vont se retrouver rejetés par toute
Ces sétentriens vont se retrouver rejetés par
l'ensemble des habitants primordiaux de Myriade parce qu'ils leur font peur.
Des sangsues qui se nourrissent.
Les parasites.
Nommés les parasites, parce qu'ils sont capables de se nourrir de tous les mantis. Alors, il faut prendre des pincettes, c'est pas, ils ne les mangent pas, à nouveau, c'est le mantis, ils communiquent avec tous. Mais il n'empêche que ces êtres sont nouveaux, et Myriade n'est pas habituée à eux, et du coup, il y a le sentiment de rejet du nouveau. Et une sorte de guerre larvée entre tous les myriadiens et les sétentras.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les mantis, on distingue six mantis qu'on va appeler purs ou
six éléments.
Six, un petit peu comme les couleurs d'un nuancier. Il y a six couleurs principales, le feu, l'eau, on les a citées tout à l'heure, le feu, l'eau, l'air, la terre, l'air, la lumière et l'ombre. Et en fait, les myriadiens, enfin les sétentriens, sont composites de toutes ces choses. Donc les myriadiens, en règle générale, qui ne sont pas composés des six éléments, mais par exemple de 5, 4, 3, 2 ou 1, vont dire les 6, alors là ça devient vraiment
c'est
trop,
quoi.
De l'impur, c'est de l'impureté, etc. Et donc ils vont les chasser. Il y a un seul myriadien qui va garder du respect pour eux, c'est Mogosh, qui va les protéger.
C'est ça, qui est un gros volcan.
Voilà.
Et ce gros volcan va les abriter et menacer la guerre nucléaire contre les autres myriadiens si jamais ils viennent chercher des noix aux sétentras.
Ah, c'est vraiment ça.
C'est un peu ça. Hein. Ah, vous venez, moi j'explose et vous allez voir ce que vous allez prendre sur la gueule.
Bah, en gros, ils menacent de détruire
un petit équilibre de la Terre.
C'est ça. Et puis un jour, parmi les sétentras, naît un sétentras absolument hideux parce qu'il est démuni des alvéas.
Il est démuni d'alvéas et des autres sensations.
C'est
il
ça.
Ne possède
il n'a
que
le mantis. Oui, il a tous ses yeux qui sont atrophiés.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, il se fait même rejeter par les siens, ce qui est vraiment pas cool, parce que être rejeté par les myriadiens et par les siens, il n'a pas grand part où aller.
C'est vrai, il est seul.
Et puis, donc, il est banni. Et un jour, il revient.
On sent un mantis très puissant qui s'approche de la ville de Mogosh. Ah non, elle s'appelait pas déjà Mogosh.
Non,
c'était son ancien nom.
C'est Sadron. Non.
C'est Sadron encore à l'époque.
Et du coup, il revient, mais il n'est pas tout seul. Il revient accompagné des Ultimas, qui sont en fait les incarnations des éléments. En fait, c'est Terre avec un T majuscule, c'est R avec un A majuscule. Et Sétentra, donc qui est le nom de ce banni, a réussi à les convaincre
de la possibilité pour les sétentriens d'atteindre la pureté absolue des mantis.
Puis même, outre ça, c'est que tout le monde pouvait vivre ensemble,
en harmonie,
dans une symbiose.
On pouvait tous être des hippies.
C'est ça. Et Sétentra est porteur du message, effectivement, que les sétentras ont la possibilité d'atteindre l'ultime sentiment, la dernière couche de l'oignon.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, du fait de ne pas posséder les sens des autres, il a développé son mantis à l'infini.
Il l'a hypertrophié.
Là, il faut en fait, l'aspiration ici, elle est double. C'est le joueur d'échecs de Stefan Zweig avec ce type qui est seul dans sa chambre, dans sa cellule, et qui va donc jouer aux échecs
contre lui-même
ouais, et développer son esprit à l'infini, parce qu'il n'a finalement que ça à développer. Ça, c'est la première source d'inspiration. La deuxième source d'inspiration, c'est bien sûr dans Saint Seiya, le moment où Shaka et Phoenix se combattent, et où finalement Shaka fait l'erreur de retirer un par un les sensations de Phoenix, lui laissant uniquement le dernier, le cosmos, voilà, celui du septième sens, et où Phoenix explique que c'est parce qu'il s'est privé de l'intégralité de ses sens que son dernier sens s'est développé à l'infini, etc.
En une seconde.
Mais en 15 épisodes.
Une seconde pour un chevalier, c'est énorme.
C'est quoi déjà la blague de Natacha ?
Combien faut-il de chevaliers du Zodiac pour changer une ampoule ?
Un seul, mais ça prend 15 épisodes.
Ouais, et il doit traverser 25, enfin toutes les maisons.
Donc voilà. Mais en gros, c'est ça, voilà. C'est l'idée que plus un esprit se limite, plus par ailleurs ses capacités tendent à l'infini. Et donc, du coup,
se limiter dans un sens, c'est pas forcément se limiter dans l'autre, en l'occurrence. Mmh.
C'est la fameuse croissance horizontale et verticale dont on parlait hier soir à Loïs.
C'est-à-dire que
tu peux ajouter des sens à ton
simulacre. Si t'as bu beaucoup de bière, t'as ton ventre qui gonfle, c'est une croissance horizontale. Si tu manges de la soupe, t'as tendance à pousser vers le haut et c'est une croissance verticale. Donc, c'est pareil chez les Sétantras. Donc en gros, Sétantra, il avait bu beaucoup de soupe et il avait arrêté la bière.
La croissance verticale.
Comment pour la manger vu qu'il n'y a pas de gauche?
Croissance verticale, c'est le fait d'ajouter des sens, et croissance horizontale, c'est le fait de s'ajouter des sens différents. Et croissance verticale, c'est le fait de se spécialiser dans un sens et de devenir de meilleur en meilleur dans ce sens particulier. Ainsi, par exemple, si les gens qui nous écoutent savent ce que sont les fragiles, ils voient que les fragiles, par exemple, ont développé de façon verticale la sensation de la vue.
Ils ont laissé tomber le reste,
voilà. C'est ça. Donc voilà ce qu'on.
Enfin, je suis pas sûr qu'il l'ait choisi en fait, vraiment.
J'imagine le frère, je fais oh, ça sert à rien.
Ils l'ont pas vraiment choisi, mais bon.
Allez, là-bas.
Ça lui a coûté les yeux de la tête, cette décision. Oh. Bon, donc revenons. Donc Sétantra revient porteur de ce message.
Il propose un nouveau modèle social, voilà. En fait.
Et puis surtout, il dit l'avoir atteint, lui, l'ultime sentiment. Mm. Et donc, c'est plus ou moins autour de lui que se fonde cette nouvelle société.
Mmh. En harmonie avec les Myriadiens qui reconnaissent l'essence parfaite de ces entrées.
Et du coup, il nettoie l'ancienne ville. Mmh. Et Mogosh balance un bon coup de lave. On en fait une nouvelle ville. On repart sur des nouvelles bases. Cet entra devient plus ou moins le leader religieux, quelque part.
Enfin, le guide spirituel.
Le guide spirituel, ouais. Mmh. Et les Sétantras se mettent tous à parcourir le monde à la recherche de l'ultime sentiment, chacun à leur façon.
Voilà. Et donc, Sétantras les invite à se rapprocher
de chacun des éléments.
Des ultimas. Donc, il va y avoir l'école de feu, l'école de eau, l'école de terre, l'école de air.
L'école de lumière et l'école d'ombre.
Voilà, c'est voilà. Ça.
Et ces Sétantras doivent apprendre auprès de ses maîtres comment pousser leur connaissance de cet élément le plus loin possible. Peut-être un jour atteindre l'ultime sentiment ainsi. Ou décider qu'ils visitent toutes les écoles de foi une par une. Enfin, chaque Sétantra décide ce qu'il veut faire. Mais grosso modo, la motivation de fond des Sétantra, c'est atteindre l'ultime sentiment.
Absolument. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les joueurs, alors maintenant, sont amenés à jouer des Sétantriens particuliers,
oui.
Qui ont un rôle particulier, à savoir les golems qui doivent garder la princesse Azilis, qui s'avérera être la fille de Sétantra, parce que l'histoire que vient de nous conter Adrien, c'est une histoire très très ancienne de Myriade. Depuis longtemps, Sétantra est mort, il a été assassiné par celui qu'on appelle l'assassin, et donc qui n'a jamais été retrouvé, etc. Et il a laissé juste comme descendante une fille que les golems doivent protéger, donc le but des golems est double. Comme descendance de Sétantra, pardon, oui, donc... le but des golems est double, démasquer l'assassin et protéger Azilis de Myriade qui devient de plus en plus menaçante pour elle et pour le modèle social proposé par Sétantra finalement. Donc voilà, et là on arrive gentiment vers les enjeux finalement des personnages. Alors il est clair que déjà les enjeux vont varier en fonction des écoles de foi. Que le joueur ou que le personnage.
Et l'envie du joueur.
Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on pourrait rapidement présenter juste les enjeux liés à chaque élément, un petit peu ?
Ouais. Alors, l'école de feu, c'est le plus facile.
Ouais.
L'école de feu, ils veulent se foutre sur la gueule pour atteindre l'ultime sentiment, en fait, en s'épuisant.
Ah bah merde, tiens, il y a mon portable qui sonne.
C'est-à-dire qu'en gros, ils se foutent sur la gueule. Et le plus fort, un jour peut-être atteindra l'ultime sentiment. Du coup, les centrats de feu, c'est un combat perpétuel dès qu'ils en ont l'occasion.
Ouais, l'école du feu, ils considèrent que l'évolution vient de la baston.
En fait, faut marcher sur les autres. Quoi.
Voilà. Alors, pas forcément marcher sur les autres.
J'exagère.
Parce que c'est vrai que le centrat du feu aime le conflit, aime se battre, mais le but, c'est pas détruire l'autre.
C'est ça.
C'est qu'ils considèrent qu'on va créer quelque chose, qu'on va s'améliorer, et que dans les morts et la dissémination.
C'est un peu le joueur d'échecs qui veut battre son adversaire à tout prix, mais qui va pas effectivement tuer l'adversaire parce qu'il a quand même de s'entraîner contre lui plus tard.
Ouais, je vois quand même un joueur d'échecs avec une
bien sûr.
Baseball,
ah oui, mais bien sûr, ça reste de l'échec physique. Hein.
Bah, c'est plus, enfin, on pourrait presque se rapprocher des philosophies martiales, qu'elles soient occidentales ou pas. C'est s'améliorer par d'abord le combat seul.
D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé. Pardon, c'est eux qui ont inventé l'idée d'art martial, l'idée de confrontation, de rayonnement, qui va être finalement le combat en fait dans Sens Néant. Hein. Et même la notion de guerre et ce genre de choses est liée à l'école du feu.
D'abord, ils se battaient pas.
D'abord, non, avant le feu, ils s'entraînent, ils se battaient pas.
D'abord, ils s'entraînent tout seuls, ils s'améliorent, et puis après, ils essayent avec quelqu'un d'autre, et puis ils apprennent, et ils continuent comme ça.
Donc ça, c'est le feu, l'eau.
Allez, l'eau.
L'eau, l'enjeu.
C'est des hippies.
Non.
Alors, Aloïs, toi qui as joué des Septentriens de l'eau.
L'eau, déjà, elle est partagée. Pour moi, c'est un des éléments qui a le plus de. Pas de richesse, mais qui a le plus de dissension interne. Parce qu'il y a quand même l'école de glace potentiellement à l'intérieur. Enfin, l'école de glace entre guillemets.
Ce qu'il faut dire sur l'eau, c'est que. L'enjeu, c'est le jugement. C'est-à-dire que ce sont des juges,
des arbitres,
impartiales, des arbitres.
Et de la politique aussi. Hein.
Oui, ils font de la effectivement, ils font de la politique, sont des diplomates.
Avant ça, je mettrais plutôt la conciliation.
La conciliation,
que des
très bon, très très bon. Ouais, exactement.
Le mot juge est un peu.
Oui, trop.
À part pour la cour d'Utopia, je trouve ça assez.
C'est vrai. Mais c'est de la conciliation. Exactement, ouais, tout à fait.
Les médiateurs.
Donc le but de l'eau, c'est l'inverse du feu. C'est que le myriade soit en paix. C'est ça l'idée de l'eau. La lumière, qui est aussi facile.
La connaissance.
Le but, c'est d'avoir, d'assimiler et de rassembler le maximum de connaissances, voire même d'aborder la connaissance de différentes façons, puisqu'ils ont la lumière, ont quand même inventé ce qu'ils appellent l'écriture de lumière.
Ouais.
Donc une forme lumière. D'information non
sentimentale.
Ouais.
Voilà, non sentimentale, où c'est simplement la vue qui permet de découvrir. Aussi, l'une des grandes idées de l'école de la lumière, c'est aussi de percer les mystères de l'étoile bleue.
D'accord, donc tu veux parler de ça déjà. L'étoile bleue donc, est une étoile qui brille au-dessus de Myriade et dont certaines prophéties disent qu'un jour...
C'est une belle problématique du jeu. Hein, donc, y a ça aussi, l'école de la lumière, c'est vrai que c'est ça, c'est la recherche de la vérité, de la réponse.
Et donc l'idée aussi que les sentiments finalement nous éloignent de la vérité parce qu'ils sont subjectifs et ils sont propres à chaque septentrien. Et donc, bien sûr, l'écriture de lumière veut et cherche une certaine objectivité, annoncer des événements et des lois qui échappent à la sentimentalité, à la subjectivité, qui sont...
Si on fait la lumière, il faut faire l'ombre.
Alors que dans l'ombre, au contraire, on est plus sur le domaine du rêve.
C'est totalement le contraire en fait.
Voilà, la lumière veut exacerber l'objectivité, alors que dans l'ombre, on est plus sur la subjectivité, sur l'individualité. Pour moi, c'est des gens qui, au-delà des sensations négatives qui sont écrites dans la base et qui sont assumées de ta part, si je me rappelle bien, c'est des gens qui sont en proie à des conflits, en quête d'eux-mêmes, à travers le rêve et à travers les ombres, même s'il n'y a qu'une seule lumière qui persiste dans l'ombre, finalement.
Mais ça va être aussi ceux qui vont venir distiller le doute chez les autres. Mmh. Une grande passion des Septentras de l'ombre, je pense, ça reste de venir emmerder les Septentras de lumière toutes les nuits en leur disant « Voyez, il fait nuit maintenant.
Ouais. » Vous en posez des questions,
c'est ça. C'est les
interroger.
C'est Socrate qui vient.
Tout à fait. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien.
En fait, la connaissance de l'ombre s'adresse par des questions, alors que la connaissance de la lumière par des réponses.
Absolument. On peut dire ça comme ça. Disons que l'ombre, c'est ça. L'ombre, c'est la question.
L'ombre, c'est la
lumière,
philosophie, c'est la réponse. L'autre, la science dure, quasiment.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, c'est vrai. Un peu ça, oui.
la connaissance dans, pour les guerriers. En tout cas, clairement, quand on choisit un Setantra de l'ombre ou de la lumière, on va se poser des questions épistémologiques. Oui. Alors que quand on choisit un Setantra sur la science, sur la connaissance, ce genre de choses...
Définir épistémologie.
Alors, c'est ce que je dis, des questions sur la science, sur la connaissance, sur la façon dont on acquiert des certitudes ou des doutes, dont on chemine vers une plus grande connaissance du monde. Alors que quand on choisit des Setantra d'eau ou de feu, la problématique est plus politique et sociale. Oui. Qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble ? Est-ce que c'est le conflit ou est-ce qu'au contraire c'est la conciliation ? Parce que dans le conflit, on apprend des choses aussi. Par exemple, s'il n'y avait pas de conflit, on ne pourrait pas débattre.
Est-ce que c'est une société avec une hiérarchie horizontale ou verticale en fait ?
Absolument.
Parce que autant le feu va plus aller à la verticale, autant l'eau va essayer de mettre tout le monde au même niveau.
Absolument.
Sans faire dépasser qui que ce soit.
Voilà,
d'un autre.
Absolument.
Même si chacun va essayer de tirer son part du gâteau.
Le feu, c'est aussi l'élément de la compétition.
Oui.
Voilà, par exemple.
Oui,
puisqu'il y a un grand tournoi.
L'évolution par la compétition.
Voilà, c'est ça, exactement.
Le fait que le conflit te grandit. Mm.
Alors, on peut parler maintenant de l'air et de la terre, où là, le débat est plus lié à la liberté et au déterminisme.
Au voyage.
Voilà, au voyage et aux attaches. Alors,
c'est
terre,
plus lié à l'individu, en fait, dans ses...
Dans son rapport à l'extérieur. En
fait. Ouais, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que la terre, déjà ? Qu'est-ce que l'école de la terre ?
La terre, ce que tu as dit très vite au début, c'est la confiance, les certitudes, la stabilité.
Mm. Là, c'est... Pour moi, c'est une école qui s'occupe des autres, en fait, parce que c'est principal. Enfin, quand on, je dis pas que c'est que ça. Je dis juste que c'est une école qui est un peu plus altruiste que peuvent l'être d'autres.
En fait, je pense que
la Terre, voilà, t'as la possibilité de protéger. Pour moi, c'est surtout lié à la protection.
Ouais, je pense qu'il y a derrière ça, il y a la valeur d'amitié,
voilà.
C'est-à-dire le fait de donner plus de valeur à autre chose que soi.
Il y a la vie en communauté, en fait.
De soutenir les autres,
mais
aussi soi-même.
Moi, je trouve que la Terre, leur objectif, c'est effectivement de protéger, mais j'ai pas l'impression qu'ils essayent de protéger Saint-Antra. J'ai l'impression qu'ils essayent de protéger Myriade.
Oui.
Le but, il faut que Myriade
soit
conservée. C'est vraiment une conservation.
Ouais, ouais.
Il y a ce côté, l'évolution n'est pas bonne, il faut rester... Ce qu'on connaît déjà est largement suffisant.
Maintenir le statu quo,
maintenir. Il ne faut pas plus de forêts, il ne faut pas que
clairement,
l'eau avance, il ne faut pas que le feu
terre,
avance.
C'est le rempart et le sol, c'est-à-dire le socle,
voilà,
la confiance.
Mais c'est aussi l'épaule sur laquelle tu peux t'appuyer.
Alors eux, justement, les Setantriens de terre, de par leur robustesse, de leur capacité protectrice, sont souvent appelés à avoir des rôles dans l'univers et dans la société de protecteurs, de gardiens. Voilà. Typiquement, ça va être le garde du rempart de la forêt de Mogoche, le mec qui surveille sur son parapet que tout se passe bien. Ce sont des mercenaires au service de chaque école. Il y a des Setantriens de terre partout, dans la mesure où ce sont des protecteurs. Et voilà.
Et puis les racines d'un arbre, ils sont partout.
L'air, c'est plutôt des individualistes. Enfin, je prends des pincettes. Pas forcément. Enfin, il y en a qui peuvent poursuivre des buts communs, mais ils vont voyager. En fait, ils vont chercher à découvrir le monde d'une façon qui est. C'est aussi un amassement de connaissances. Non, c'est un amassement d'expérience en fait.
Ouais.
Autant
c'est un peu l'expérience.
Autant la Terre va s'appuyer sur ses expériences pour aider les autres. Autant lui, c'est je vais m'appuyer sur mes expériences pour m'enrichir moi-même.
Moi, je le prendrais pas comme ça. Moi, je dirais juste que le central de l'air, il cherche juste à profiter du moment.
Attends. Oui. On parle de la Terre ou de
l'air ?
C'est à l'air.
Ah, excusez-moi.
À l'air, le Setantra cherche juste à profiter du moment. C'est-à-dire qu'en fait, il ne considère pas d'expérience, il ne considère pas de savoir, c'est juste qu'il va papillonner.
Ah oui, donc du coup, Adoï, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que alors, il y a deux sens au niveau de l'expérience.
Je vais proposer un peu les deux.
L'expérience au sens de passé sur lequel on s'appuie, ça c'est clairement la Terre.
Ou la lumière.
Ou la lumière, voilà. Alors que, voilà, exactement, au sens d'expérimentation. Ouais. Alors que ce que tu veux dire, c'est plutôt.
Le vécu, en fait, dans les deux cas, je parlais vraiment de l'expérience en tant que vécu, pas de l'expérimentation.
Même ça, je suis pas d'accord, parce que pour moi, le Setantra de l'air, par excellence, il a pas de mémoire, en fait. C'est un petit poisson rouge qui juste... Non, mais j'exagère,
bon, après,
je tire le trait.
Je suis un peu trop mélangé avec Polygone aussi.
Mais le Setantra de l'air, pour moi, par excellence, c'est celui qui est volage, qui... un jour va partager ton chemin, et puis vous allez vivre une aventure passionnante, et puis le lendemain, il est parti. Et quand tu le recroiseras 20 ans plus tard, ben juste il s'en souviendra plus parce que il a vécu tellement d'aventures que
Thomas.
Le Setantra de l'air, c'est un Setantra qui vit sur l'instant, en fait, ce qui compte,
ouais,
c'est ça,
ouais.
L'instant. Mais c'est vrai que moi je vois pas comme ça. Pour moi, le Setantra de l'air, c'est quand même Il n'est pas quelqu'un de détaché.
Je tire le trait à fond.
C'est vrai que les centrales de l'air, moi j'ai toujours vu quelqu'un qui, effectivement, par rapport à la Terre, il faut rester sur ses bases. Le centrale de l'air a besoin de voyager, de découvrir de nouvelles choses, parce qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est la découverte.
Ah là,
de ne pas rester stagnant.
Bon. C'est ce que tous les jours
améliorer. Et c'est ce que tu voulais dire, Aloïs, par l'expérience. Mais moi, je préfère le terme de découverte. Oui, oui. Et ça colle parfaitement au poisson rouge aussi, qui ne cesse de découvrir.
Ouais, c'est ça. C'est juste que chaque instant soit nouveau. C'est
aussi pour moi ceux qui font l'humour dans le... Enfin, pas, ce... ah, pas l'humour, pas uniquement, pas uniquement. Non, mais je les vois espiègles, en fait.
Oui, comme c'est vrai qu'ils ont ce côté, effectivement, qu'on peut voir de changeant. D'ailleurs, à un moment, on va discuter avec lui parce qu'il vient de voir une plaine. Et pendant que tu es en train de lui discuter, bah oui, effectivement, la plaine, ça vient de telle chose.
On
il est parti faire autre chose.
À des enfants, finalement, un petit peu. Quoi. Ils ont un côté un peu enfantin.
Un petit peu, ouais.
C'est compliqué. Hein.
Après, derrière l'air, je peux mettre aussi quelque part une sorte d'égoïsme. En fait, l'insouciance, c'est-à-dire ne pas considérer les autres, c'est aussi une manière de se dire.
C'est pas un podcast sur les différentes écoles de foi, mais rapidement pour conclure, dire aussi que l'air, c'est aussi ceux qui, dans les sons, cherchent à décoder un autre langage. Oui, et c'est ça, quand même assez important. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur un point où.
Ils ont
une prophétie bien particulière. Ils écoutent les sons comme quelque chose qui pourrait leur annoncer des choses futures. Donc, ils sont quelque part un peu en marge. Ce sont des marginaux dans l'univers de sens néant.
Il se rapproche un peu dans l'idée de l'écriture de la lumière.
Oui, voilà, c'est ça. Sauf que eux, ils partent dans le langage oral, l'oralité, la sonorité, en fait.
L'oralité, c'est bizarre.
C'est compliqué.
Est-ce qu'il faut parler un peu de la tristesse de ces deux dernières écoles
Du fait que...
Ils n'ont plus leurs ultimas.
Effectivement, les ultimas de l'air et de la terre sont absents, et donc Polygone...
Alors, les autres aussi. Les autres aussi, c'est juste que les autres écoles de foi peuvent les invoquer de temps en temps quand les étoiles sont alignées.
On va peut-être pas rentrer dans ces détails parce que ça n'apporte pas grand-chose pour l'incarnation du septentrien. Allez, on reprend.
Donc voilà les écoles de foi.
Les écoles de foi.
Chaque septentra appartiendra donc à une école de foi.
Voilà. Particulière, bien précise, mais il aura aussi...
Alors voilà, il va papillonner ailleurs.
Il sera majorité d'eau, mais il sera aussi de lumière, par exemple.
Tu peux avoir un septentra qui a beaucoup en un élément et... quasiment autant dans un autre, c'est pas dérangeant.
J'ai toujours étalé mes trucs, j'aimais bien avoir tous les éléments. Il y a toujours l'ombre qui est restée un peu en dessous.
Mais pourquoi ? Parce que t'aimais bien jouer le septentrien de l'eau.
Ouais,
et que c'est typiquement le genre de réaction que peut avoir un septentrien de l'eau dans la mesure où voilà, la conciliation, etc. Mais ta majorité, je te rappelle, en majorité, t'étais de d'eau.
Oui, clairement.
Voilà. Jonas, c'est un personnage d'eau.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'à posteriori, on a justifié le fait que j'avais pas d'ombre quand on a fait le scénar solo. Mais voilà.
C'est-à-dire de l'élément onde, tu
dis. Oui, l'élément onde. J'en avais très peu.
C'est...
Oui, alors, on n'est pas dans
sens renaissance. Adrien, et tu dis...
Et donc, du coup, dans ce cadre-là, le fait que chaque sétentra, dont les sétentras joués par les joueurs, soit inscrit, fasse partie d'une école de foi, fait qu'ils ont quand même un comportement...
des enjeux, un rôle à jouer,
des
objectifs.
Qui sont liés à cette école de foi.
Absolument,
Ils ont... Asilis à protéger, mais ils ont la vision du monde de leur école de foi.
Donc, du coup, en fait, ce que tu veux dire, c'est que finalement, le choix de l'école de foi va aussi influencer les enjeux du personnage, les objectifs et le roleplay.
C'est une sorte de choix de classe, entre guillemets.
Voilà, c'est un guide de roleplay.
Et la façon dont on envisage la protection d'Asilis, parce que c'est pas toujours dans le domaine selon l'école.
Un sétentra de feu va vouloir aller défoncer l'adversaire tout de suite.
Voilà, voire même vouloir qu'Asilis se défonce elle-même.
Ouais, c'est ça.
Alors que le sétentra d'air va plutôt être là, mais libère-toi, sors de ton palais, voyage, etc. Le sétentra d'air va lui dire non, princesse, restez derrière ces murs.
Un grand mur derrière ça.
Restez derrière ces murs, le monde est dangereux. Enfin, chacun va avoir un petit peu son mot à dire. Et évidemment, la team des PJ est composée. Le maître de jeu doit en tout cas encourager ça, est composé en majorité de un de chaque. Et tout le jeu est là-dedans, dans la relation que les écoles entretiennent entre elles. Et ça nous permet.
Parce que ça permet d'avoir des scènes d'opposition parce qu'il y a des différences.
Voilà.
Ça permet d'aborder toutes les difficultés de différentes façons. Donc c'est vrai que il faut surtout privilégier avoir. Chaque joueur a une école différente parce que c'est beaucoup plus intéressant.
Bah oui, bien sûr. Donc et là, on rentre gentiment dans la quatrième partie du podcast.
J'ai un petit mot à dire là-dessus.
Adrien.
C'est que au moment du choix de l'école de foi, les écoles de l'air et de l'ombre ont une description par les mots-clés dans la base qui est assez négative.
Ouais.
Et du coup,
l'ombre,
il faut.
L'air, je trouve.
Ah, si, l'air aussi. Il n'y a que des suffixes en 1. indifférence, insouciance, inactivité.
Je la trouve moins négative parce que pour moi, enfin, l'insouciance, c'est pas forcément négatif.
Après, qu'est-ce que tu veux dire, Adrien ?
Alors, il faut pas que les joueurs. Je finis. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qu'en tant qu'MJ, il faut pas hésiter à dire que ce n'est pas injouable du tout, que c'est que ça amène des problématiques très intéressantes,
voilà.
Et que c'est pas le personnage n'est pas fixé à cette description par ses mots.
Mais en fait, le point essentiel, c'est de dire
que être proche de un de ces mots suffit.
Voilà.
Ouais,
d'abord. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, c'est que ces termes sont péjoratifs dans le vocabulaire humain.
Oui, c'est ça.
Mais chez les sétentriens, le doute est important. Il faut voir ça comme.
C'est des conceptions humaines, quoi. Voilà. C'est l'anthropomorphisme qui.
En fait, voilà, faut pas hésiter à résumer l'école de l'ombre en doute. Parce que quand il y a des mots comme cauchemardesque et autres. On a une vision très négative parce qu'on est humain, forcément.
Et puis, le fait que ces mots se soient associés à toi, ce n'est pas uniquement que c'est toi qui es insouciant, quoi. C'est que tu vas provoquer l'insouciance, etc. Donc,
et puis, chacun fait ses courses, quoi.
Ouais, exactement. C'est ce que disait Adrien.
Ouais, c'est ça.
Il disait qu'il fallait sélectionner aussi. Chacun fait ses courses dans les concepts abordés, effectivement.
Donc voilà, c'est un petit mot au passage.
Par rapport à l'interactivité... Anoïs, tu voulais rajouter
Ça va rentrer dans le truc d'interactivité, mais peut-être y arriver plus tard.
On arrive à la quatrième partie, qui est l'interactivité. En fait, je me dis que finalement, les us et coutumes, l'interactivité, sont intimement liés. Alors, Anoïs.
En fait, c'était surtout par rapport à la non-interactivité, en fait. La seule façon de vraiment supprimer, enfin une des seules façons de supprimer cet entra, c'est le couper de l'extérieur, en fait. Et juste parce que c'est sa façon de se nourrir, le mantis. Si tu l'empêches de ressentir du mantis, tu l'empêches de voilà. Donc je pense que c'est important de voir ce côté.
Et pour ce faire, en fait, juste rapidement pour aller jusqu'au bout de ton raisonnement, c'est que pour ce faire, et c'est un petit peu le combat en fait, hein, dans Sens Néant, au sens technique du terme, quand on passe en mode combat, c'est que pour empêcher au sétentrien de ressentir du feu, typiquement, on va l'entourer de sentiments d'eau. Ce sont des sentiments opposés de façon à ce qu'il ne puisse. Et donc, c'est ce qu'on appelle se combattre. C'est pour ça que, en termes techniques, quand on combat, si par exemple un sétentra d'eau combat un sétentra de feu, le sétentra d'eau, lorsqu'il attaque, fait des dégâts, fait beaucoup plus de blessures. On ne va pas rentrer dans le technique, hein, mais fait beaucoup plus de blessures au sétentra de feu qu'il ne le ferait à un sétentra d'eau ou à un sétentra de terre. Et donc, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a
en fait,
l'enjeu.
De son essence.
Voilà, on le coupe de son interactivité avec l'élément. Et chaque élément, évidemment, empêche l'autre de rentrer en interaction.
Je pensais que ça pouvait être important à souligner pour les joueurs.
Ah bah oui, la première interactivité, elle est là. C'est dans le conflit de rayonnement qu'on va avoir avec les autres. Et le conflit de rayonnement, c'est ça. C'est apporter le sentiment opposé à son adversaire pour le couper et pour lui imposer la raison. Savoir que lorsque les joueurs n'ont plus de rayonnement, ils sont épuisés. Donc c'est l'équivalent des PV, en fait. Les rayonnements, c'est à la fois les points de magie et les points de vie. C'est-à-dire, on joue des élémentaires. Donc, à partir de là, tout est dit. Tu utilises tes points de magie pour effectuer des effets, invoquer des éléments, invoquer des créatures. Voilà, mais ça te coûte des points de rayonnement.
Des points de vie.
Des points de vie, voilà, c'est ça, exactement.
Ah, c'est comme s'il se meulait, quoi.
Absolument.
Il se blesse pour créer quelque chose.
Donc ça, c'est la première interactivité, c'est les fameux rituels. C'est-à-dire que les sétentras peuvent effectuer des rituels à l'aide de leurs points de rayonnement. Donc invoquer des éléments pour éclairer une grotte sombre, par exemple, pour chasser des
éléments. Liés à un élément.
Voilà.
Il faut toujours ça, c'est que les rituels sont toujours liés à un élément.
Ouais.
C'est jamais... voilà, il faut toujours dire, si je veux invoquer une créature, parce qu'il y a un rituel qui s'appelle invoquer une créature, on va choisir quel type d'élément on peut avoir. C'est-à-dire que si on va invoquer une créature de l'ombre, on pourrait imaginer une genre de petite chauve-souris, sétentriesque.
Ou un démon.
Ou un démon.
Ce qu'on appelle les démons, voilà. C'est des créatures qui se sont perdues dans les ombres. C'est-à-dire qu'elles ne savent plus, elles n'ont plus...
n'arrivent plus à en sortir.
Elles n'arrivent plus à voir la lumière. Voilà.
Ou un sétentra de l'eau pourrait invoquer... un crabe ou une créature que le joueur souhaite tant qu'il correspond avec son élément et que le meneur est d'accord avec
ça. Ou une créature, ça peut être aussi un courant marin, par exemple.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que les éléments sont finalement, et c'est la source principale de l'interactivité, en ceci qu'ils sont des sortes de briques qui vont servir à construire des personnages.
Oui.
Si vous mélangez, par exemple, de l'eau et du feu, vous obtenez de la vapeur. Si vous mélangez...
de l'alcool.
Si vous mélangez de l'eau et de la terre, vous obtenez de la lave. Du feu, pardon, de la boue, voilà. Et si vous obtenez du feu et de la terre, vous obtenez de la lave, etc. Et donc, comme ça, en fait, en dépensant des points de rayonnement, on va pouvoir prendre de soi, prendre de la terre de soi.
J'ai l'impression qu'on fait les choses un peu en vrac. C'est-à-dire qu'on on a commencé par les, l'invocation de créatures, et puis là, tu nous parles de la forge sans dire ce que c'est.
Ah oui, pardon, oui. C'est vrai que c'est un rituel. C'est un rituel bien
donc, dans les rituels, il y a donc invoquer une créature.
Ouais, pardon, excuse-moi,
et Adrien. Et faire de la forge, qui est justement ce que dit Romaric, c'est-à-dire faire agir ces briques élémentaires pour les combiner. Comme donc il disait, par exemple, si on rajoute de l'eau à de la terre, on va faire de la boue.
Voilà, c'est ça. Alors, excuse-moi, c'est vrai.
Clarté,
en fait,
là,
je pense que
typiquement,
j'ai l'impression que ce podcast incarné un Setantra mériterait limite qu'on fasse ensuite des sous-podcasts. Peut-être un sur les écoles de foi, peut-être un sur les rituels en eux-mêmes, faire défiler les rituels, voir la potentielle de chaque. Il me semble que c'est un podcast un peu à tiroir, un podcast un peu introductif.
Mais je pense comme on aime chez nous. Hein.
comme on reste relativement en surface pour que les joueurs puissent l'écouter, c'est aussi normal.
Je pense qu'il va y avoir quand même des choses à dire sur ces rituels. Donc c'est pour ça que je préférerais qu'on ait un peu plus de clarté en les abordant, histoire d'être précis dans ce qu'on dit et de ne pas papillonner trop.
T'es bien en lumière, toi. Hein.
Ça, c'est clair.
Un petit peu. Et donc on a fait... On a vu le rituel
de l'élément invoqué.
Alors oui,
j'en ai parlé
l'élément et la créature, c'est un peu similaire, c'est qu'on va invoquer quelque chose de plus ou moins simple. Voilà. Le rituel de la forge, où justement on va pouvoir forger des éléments, ça veut dire...
On crée des PNJ en fait.
Ça, on peut combiner un caillou avec une rivière pour faire quelque chose, ou un bout de bois pour en faire un petit bateau, ou que sais-je.
On crée des PNJ.
C'est ça, on le fait toujours avec leur autorisation. Enfin,
tout à fait.
Si possible, sinon il faut les avoir vaincus d'abord.
D'accord, voilà, c'est ça.
Et enfin, pour moi, un des rituels qui est... Il reste deux rituels qui sont très importants pour moi.
Adrien.
Un rituel qui est le rituel de l'état, qui est en fait de changer la couche superficielle de notre oignon. Oui. C'est-à-dire, en gros, un central de lumière, de base, c'est ces sentiments affleurants. C'est de la lumière, c'est sa certitude, c'est tout ça.
Je crois qu'il faut l'arrêter avec les oignons, parce qu'à force, les auditeurs vont...
Ils vont pleurer, ouais.
Un oignon avec des bras et des jambes.
Non, mais c'est... Et puis à force de peler des oignons, ils vont se mettre à pleurer.
Mais ça, c'est normal.
Et donc, ce central de lumière peut décider de changer ses mantilles supérieures, c'est-à-dire passer de sa certitude à montrer tout d'un coup, par exemple, je sais pas moi, un courroux ardent en faisant passer son feu en superficie. Et ça va avoir des effets, c'est que notamment quand tu es en état de feu, tu peux faire tous les rituels liés à l'école de feu.
Tout à fait.
Et surtout, ça peut être une marque de respect, ça peut être une...
Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà. Ça fait partie de l'étiquette. C'est-à-dire que tu ne te présentes pas face à l'outrima de terre dans un élément qui ne serait pas de la terre. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es face à l'outrima de terre, tu dois t'agenouiller devant elle, la respecter, lui apporter... Ouais. Quand tu es devant l'eau, tu dois arriver en paix. Quand tu es devant le feu, tu dois le saluer en lui pétant la gueule. Ouais. Enfin, voilà, c'est, y a un côté...
Moi, j'aime bien un exemple qui est simple, c'est que la personne qui veut venir à Mogoche et qui doit traverser la forêt n'a qu'une seule chose s'il veut pouvoir la traverser, de passer en terre.
Deux choses.
Au moins, pas en air.
Soit en terre.
En air, s'il passe par deux.
Soit en terre, soit exprimer sur sa couche supérieure son mantis d'amour pour Azilis.
Voilà, exactement. Ah oui, c'est vrai.
Qui peut être de n'importe quel élément.
Alors ça, c'est pareil, c'est un truc à dire. C'est typiquement, par exemple, les Sétantriens, ils ne respirent pas. Donc, ils peuvent rentrer, par exemple, dans l'océan. Mais l'océan,
mais
c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui dit...
Si on rentre en forme de feu...
Vous allez vous faire blesser, parce que l'océan, il ne tolère pas qu'il y ait des gens de feu en lui. Donc,
je crois qu'il tolère quasiment que l'eau.
Non, pas forcément. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, mais
tu
non,
peux
c'est
entrer
pas
en lumière dans l'océan. Bon, tu vas avoir des difficultés, parce que vous savez qu'au fond de l'océan, il y a beaucoup d'ombre, mais voilà. Mais néanmoins, tu peux rentrer en lumière au départ, tu peux rentrer en terre, tu peux rentrer en... etc. Mais c'est juste que le feu, non, ça, c'est pas possible. Et c'est pareil, l'air ne tolère pas qu'on entre en elle en terre. Et c'est pour ça qu'on reste sur la Terre quand on est en Terre.
Fondamentalement, en étant sur Terre, on est aussi dans l'air.
Mais
il y a une couche de transition, il y a eu des rapports qu'on fait, on vous laisse le bas, on prend le haut.
Les deux premiers mètres 50, enfin diamètre 50.
Les premiers diamètres 50.
Tu pèses plus lourd quand t'es en forme de terre, alors les jugras ils veulent pas te porter parce que tu pèses trop quoi.
Donc ça c'est le rituel.
Non mais t'as raison de le préciser, c'est important en fait, pour l'étiquette.
Très très important.
Oui, clairement.
Et puis en fait c'est aussi un moyen...
La réorganisation sentimentale de son être.
Et puis en fait c'est aussi un moyen d'exprimer ses sentiments quand c'est un Sétantra souris, c'est peut-être la couche superficielle de son mantis qui l'a changé.
Ouais, voilà, c'est
un Sétantra de feu qui est toujours en colère et qui va sourire, il va peut-être passer son mantis d'eau.
Tout à fait.
Donc, c'est un aspect important dans l'interaction avec le monde. C'est un outil indispensable. Et enfin, le dernier qui est un des rituels clés, c'est le rituel de lecture sentimentale. Qui en fait, c'est exactement ce que j'avais précisé quand on lisait les larmes, c'est-à-dire quand on essayait de comprendre les gens. La lecture sentimentale, justement, c'est ça, ça va être soulever ces couches de mantis, ces larmes, ces lames d'oignon, pour aller voir au cœur.
Alors, ce rituel, justement, prend forme d'une visite. Donc, oui, on rentre vraiment dans l'esprit des gens que l'on lit.
Ils nous y invitent ou on y rentre de force.
On y rentre de force. Donc, dans le jeu, on est amené à se balader comme ça, parfois dans des souvenirs, des endroits qui ne sont pas, qui ne sont pas réels, en fait.
Et quand on entre dans certains endroits, il y a vraiment des trucs qui font peur. Il y a plein de gens ici, ils font une fête.
Ou des trucs qui font rêver, justement, parce que c'est comme ça que tu peux interagir avec l'intimité des gens. Par exemple, typiquement, tu croises quelqu'un à Mogosh, et puis tu vas commencer à discuter avec lui, puis il va te raconter qu'il y a longtemps, il était à l'école du feu. Paf, là, le maître de jeu commence à décrire l'école de feu. Ouais. Il t'invite dans sa larme, tu vas avec lui. Et là, du coup, en fait, j'ai envie de dire que celui qui est lu devient à moitié en fait le maître de jeu.
C'est ça, parce qu'il peut décrire tout ce qu'il y a, voilà, et les personnages peuvent interagir avec ce qu'il y a.
D'ailleurs, lorsque les personnages vont dans l'alarme d'un autre joueur, même le maître de jeu est invité à laisser le joueur devenir maître de jeu presque, ou en tout cas prendre l'autorité.
Alors avec Thomas, on pense qu'il manque un rituel.
Il manque un rituel très important.
Je te laisse le faire, Thomas, parce que tu parles moins depuis tout à l'heure.
C'est le. Thomas. Alors je me rappelle plus du nom exact de ce rituel, mais c'est un rituel qui va permettre de donner comme un cadeau un sentiment à un autre myriadien.
Alors c'est le rituel de la forge, on en a parlé.
Oui, c'est bien, c'est le rituel de la forge.
Moi, je pense pas à celui-là.
Oui, mais on en a parlé comme d'un craft, et voilà. Thomas, il va en parler comme d'un truc social, je pense.
C'est quelque chose de très social, parce qu'en fin de compte, ça...
Oui, c'est vrai qu'on est passé vite dessus.
Alors qu'il est...
Ça permet de donner, en fin de compte, des sentiments, donc des caractéristiques de son personnage, un peu comme un cadeau.
Ouais.
À quelqu'un. Dire que moi, c'est ce que je fais régulièrement quand je joue à Sens Néant, c'est que par exemple, on croise un jugra, qui est un énorme oiseau qui va nous permettre de voyager. Moi, au cours du voyage, je discute avec lui pour savoir ce qu'il a vécu. Et si le voyage m'a plu, ben, comme remerciement, comme cadeau, je lui transmets un sentiment.
Définitivement.
Définitivement. Et cet avantage, bon, c'est vrai que c'est, donc, le fait de faire ça, c'est que son personnage devient moins fort. Puisque la force du Setantra, c'est quand même ses sentiments et sa tout valeur. Mais à côté, je me dis que ça permet de voir un Setantra envahir Myriad, parce qu'en fin de compte, ses sentiments sont partout.
Alors, exactement. C'est-à-dire, alors, donc, c'est le fameux rituel de l'apprivoisement.
Alors, rituel de l'apprivoisement.
Tant qu'on est sur la force, j'aimerais aborder un autre point. C'est que, comme le disait Thomas, ça peut être un cadeau, mais ça peut être aussi une sorte de scarification, une sorte d'abandon d'un sentiment. Et ça, c'est très important. C'est que parfois, moi, ça m'est arrivé très très vite, il y a des joueurs qui font, bon ben là, le sentiment que j'ai plus trop de raison de l'avoir. Je vous donne un exemple imaginaire complet. Un personnage qui est attaché à un arbre, c'est son ami, c'est l'arbre qu'il va visiter souvent, et puis récemment l'arbre est tombé malade, s'est flétri et a disparu, et le joueur peut être blessé par ça et dire cet arbre, j'ai envie de lâcher le souvenir,
de lâcher le souvenir
pour pouvoir continuer
l'oublier pour avancer l'oublier. En fait,
et du coup il va pouvoir peut-être forger une statue dans laquelle il distillera ce sentiment pour s'en séparer complètement et du coup se débarrasser de ce sentiment.
Aloïs.
Forme d'oubli, c'est entrier.
Voilà, c'est ça.
Aloïs, tu voulais
il me reste deux rituels pour moi.
Alors attends, je voudrais quand même...
Mais justement, il y en a un des deux qui est lié à ça pour moi. C'est le rituel de l'amour.
D'accord.
Parce que fondamentalement, on est dans un rituel de l'apprivoisement. Donc il faut quand même être deux Setantra qui s'aiment pour pouvoir enrichir un Setantra, parce qu'on peut seul... passer jusqu'à 5 éléments.
Voilà, on peut créer 10 myriadiens seuls, mais on est obligé d'être à 2 au moins
pour créer un Setantrien. Donc c'est le rituel de l'amour où chacun va pouvoir transmettre au futur Setantrien un lien. Il faut quand même que les Setantras ressentent de l'amour entre qu'est-ce que c'est l'amour dans Sens Néant, c'est une question. Je sais pas si
on dira techniquement que c'est un lien à 10, mais du point de vue de l'histoire et de l'historique, c'est
plus intéressant.
Il s'agit que les joueurs soient d'accord.
Voilà.
Les joueurs ou les PNJ.
Oui, bien sûr.
Donc il y avait ce rituel-là. L'autre, je reviendrai dessus après si vous avez encore des trucs à dire sur l'apprivoisement.
J'ai juste un dernier petit truc sur l'apprivoisement, c'est que le don semble assez gratuit, désintéressé, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous multipliez ce don aux mêmes personnes... typiquement, on avait par exemple dans une des épreuves un géant qui s'appelait Basaltus. Je ne sais plus lequel d'entre vous lui a donné des liens. Au bout d'un certain moment, on a considéré que du coup, vous étiez tellement proche de Basaltus que celui-ci était donc c'est un grand golem de basalte qui pouvait éventuellement être invoqué, vous aider. Et ce qui est important à dire, c'est que lorsque on a apprivoisé un sétentrien, d'abord le rituel d'invocation de ce dernier est moins cher, donc ça vous permet, en termes techniques, de faire baisser les coûts d'invocation. Et puis, en termes tout simplement de possibilités de jeu, les myriadiens que vous avez apprivoisés peuvent être interprétés par le joueur. Et c'est ce que voulait dire Thomas tout à l'heure quand il disait « progressivement, en donnant ces liens, on prend le contrôle sur l'univers et puis peut-être un petit peu même
et
sur la narration. »
L'autorité
voilà,
sur
l'autorité
ce personnage.
Se partage. Parce que du coup, par exemple, vous, typiquement, on avait un cas dans la campagne qu'on a faite avec Aloïs et Thomas où le personnage de Flavie avait été capturé par le grand méchant. Et en fait, elle a pu jouer un myriadien qu'elle avait apprivoisé. Donc, rester, jouer toujours un personnage à la table, parce que voilà, c'est une sorte d'extension de la volonté des joueurs sur des personnages non joueurs.
Pour moi, je sais que c'est un rituel que j'aime beaucoup, parce que je crois que depuis qu'on joue à Sens, c'est la chose qui m'a toujours fait le plus rêver. Ouais. De pouvoir se donner à d'autres créatures, pour voir.
Mais tu peux le faire en tant qu'être humain aussi.
Oui, bien sûr qu'on peut faire en tant qu'être humain.
Alors, je le pondère un petit peu quand vous dites que c'est à force de donner, ça va créer ça. Le don, pour moi, n'est pas la cause. Le don est la conséquence du rituel d'apprivoisement.
Voilà, c'est-à-dire
qu'en fait, moi, systématiquement, les golems rencontraient, par exemple,
C'est un peu la question de l'œuf et de la poule.
Ils rencontraient un poisson qui les avait aidés à trouver un chemin dans les profondeurs marines. Et puis, ils ont pu discuter avec le poisson. Le poisson les a un peu dérangés parce que c'était un poisson teinté d'ombre. Et du coup, vers la fin, ils ont décidé de le remercier en lui donnant un sentiment.
D'accord.
Et puis le poisson a continué à les suivre, parce qu'il était encore sous l'océan, et puis ils ont continué à discuter
avec
le poisson.
L'océan.
Et puis, en fait, le don ne venait pas pour provoquer l'apprivoisement, le don venait parce qu'en fait, ils étaient en train de l'apprivoiser, discuter avec
Mais
lui.
Tu vois, c'est un petit peu la question de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui
oui.
vient en premier? Le fait
c'est
que
en
le
fait,
joueur décide de donner
en fait,
le lien, ça prouve
en fait,
qu'il
non,
y est attaché.
L'importance, c'est que pour les joueurs, il ne faut pas que vous donniez systématiquement au PNJ en vous disant « je vais les apprivoiser ». Il faut que vous fassiez le cheminement inverse et
voilà
vous dire
«
ce PNJ me plaît, je vais parler avec lui, je vais passer du temps avec lui ».
C'est une forme d'approbation du PNJ.
Mais il me semble en plus que, de toute façon, étant donné que les joueurs ont 12 liens à répartir par épreuve, il me semble quand même justement, je trouve que c'est avec parcimonie. Moi, les 12 liens, j'ai toujours trouvé ça un peu court, quoi. Parfois, dans les scénars,
je sais pas,
ils avaient tendance à les collectionner.
En fait.
Ah ouais.
Du coup, c'est pour ça que souvent, ils en donnaient à plein de PNJ, en fait, parce que ils voyaient qu'ils les collectionnaient et puis ils voyaient pas trop comment justifier d'augmenter leurs liens déjà existants, parce qu'il y avait plus trop eu de scènes avec certains de ces liens, hein, par exemple. Quand tu as 10 avec Azilis et que tu passes un scénario avec Azilis, tu n'as plus de raison d'augmenter ce lien vu qu'elle s'est déjà à 10. Du coup, c'était les PNJ rencontrés, c'était des dons.
Typiquement, par exemple, si tu passes du temps avec Azilis et qu'elle joue de sa lyre céleste des étoiles,
non,
tu peux très bien te lier du coup à la lyre céleste des étoiles.
Bien sûr.
Voilà, par exemple.
Le dernier rituel pour moi, c'est le duel de l'arme, en fait.
Alors, on va pas en parler parce que c'est pas un rituel. Deux, c'est quand même réservé aux joueurs.
Ouais.
Ils en ont entendu parler dans le background, mais bon, ils ne savent pas encore tout à fait ce que c'est.
Voilà
donc,
on n'en parlera pas plus.
C'est
juste à évoquer parce que socialement parlant, ça a une influence.
On va dire que la dernière interaction dont on n'a pas parlé, au final, c'est celle que vous avez avec ce dernier lien que vous devez inscrire à la création de personnage, qui est le fameux non-lien. Qui progressivement.
J'aimerais bien dire un petit mot.
Bah écoute, vas-y, je t'en prie.
Parce qu'en fait, ce non-lien à la création, les joueurs souvent se posent la question quelle est la signification en fait de ce non-lien? Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent pas avoir un lien qui soit attribué à ça au-dessus?
Par l'avenir. Ouais.
Qu'est-ce que ça signifie de ne rien ressentir pour tel personnage?
Que tu peux mentir.
Le problème c'est que souvent les personnages croient que le fait de ne rien ressentir, par exemple, je sais pas, si mettons Azilis, c'est pas très gentil, mais s'ils disent je ne ressens rien pour Azilis, ils voient pas la différence entre un lien d'air d'indifférence pour Azilis.
Parce que la différence, c'est ressentir quelque
chose. Voilà, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, ne rien ressentir, c'est au-delà de ses sentiments. En fait, faut voir que c'est hors du propos.
En fait, je crois même que c'est un sentiment qui n'existe pas, en fait.
Voilà,
on ne peut pas concevoir.
C'est un sentiment qui est inconcevable.
C'est même pas du mépris. C'est que si, par exemple, l'objet du lien acide et dans la pièce, tu ne le verras même pas. Enfin, il y a un côté.
Ouais, c'est ça, pour un central, vu que ce n'est pas un sentiment, ça n'existe pas.
Ouais. C'est, en tout cas, à chaque fois que tu le vois ou que tu mens, enfin, ça, c'est vachement compliqué. Ouais. J'ai envie de dire que ça appelle vraiment un podcast à part entière, ton
oui,
truc,
hein, oui,
sur
oui.
le non-lien. On pourra
mais
en parler.
Mais en fait, c'est dommage parce que c'est à la création, c'est quand même un point qui peut gêner les joueurs.
Ah ouais, non. Moi, je dis qu'à la création. Tu ne dis rien, tu dis que dalle. Tu dis, vous faites un non-lien qui est de la forme je n'éprouve aucun sentiment pour quelque chose, et tu dis juste la chose suivante. Tu dis juste en tant que meneur, tu dis en gros, l'objet de ce non-lien vous permettra de mentir à son sujet. Point. C'est tout ce qu'il faut dire. Il n'y a pas autre chose à dire.
Okay.
Et mais du coup, il peut être
redondant avec un lien que l'on a au-dessus.
Ah oui.
Ah oui, absolument.
Il y a un personnage qui s'est construit entièrement là-dessus.
Ouais, absolument. Par exemple, le personnage de. Enfin, on rentre pas dans les détails pour ce podcast parce que je pense qu'on va en faire plein des podcasts sur toutes ces thématiques. Voilà déjà ce qu'on pouvait vous dire sur l'interactivité.
Ouais.
Il y a quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Thomas, hésite à prendre le micro. Il y a quelque chose qui te.
J'ai des choses à dire, mais je dis est-ce que ça fait
après,
partie du podcast.
Il y a des questions qu'on pourrait aborder qui sont un peu l'organisation de la société Setantra. C'est-à-dire que.
Ah oui. Ouais.
Parce qu'en fait, là, on a vu l'individu, ce que cherche chaque individu. Mais on a du mal à s'imaginer ce que fait un Setantra au quotidien.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, c'est quelque chose qui est problématique parce que les joueurs ne savent jamais trop. Quand on leur dit votre Setantra a un moment de temps libre, qu'est-ce qu'il fait? Ou même je suis dans la ville, c'est une ville de Setantra, il s'y passe quoi?
Il parle à des cailloux.
Oui. Alors justement, c'est une société qui est concentrée sur la recherche de la culture et de
l'aboutissement
personnel. Voilà,
et
c'est
donc
ça.
Pas mal par l'échange, parce qu'ils en ont besoin pour subsister d'une part.
Oui et non.
Si, ils ont besoin du mentissement pour subsister.
Voilà. Mais typiquement, par exemple, quand tu demandes qu'est-ce qu'on fait dans une ville, on y fait de l'art. On y fait de la discussion, on va boire un coup, façon de parler, on va échanger.
On va dans une taverne tenue par un Setantra de feu et d'eau.
Se nourrir de sentiments d'eau, c'est ça.
Et prendre un peu de ses gapantes.
Voilà, c'est vraiment l'épanouissement intellectuel.
L'aubergiste, ça va être un Setantra qui a de la terre et qui aime être là pour discuter avec le voyageur fatigué, pour pouvoir... Voilà, donc faut pas hésiter à y voir la société humaine. Mais où le fait que chacun tienne son boulon, on va dire, ce soit parce que c'est quelque chose qui le passionne, parce qu'il y a quelque chose derrière des rencontres ou un travail ou quelque chose.
Loïs ?
Alors, là, c'est une question dont je connais plus ou moins la réponse, hein, mais est-ce que les Setantra ont des vêtements, tout simplement ? Parce qu'on parle de ces gapandes dans toutes les poches.
Oui, non, mais c'est une façon de parler.
Oui,
le truc, c'est que les Setantriens ont des vêtements en fonction de leur rôle dans les écoles de foi. En fait, ils ont des vêtements
des
symboliques.
Des tatouages aussi.
Des tatouages, etc. sur le corps qui évoluent d'ailleurs en fonction de leur état. Et en fait, le truc, c'est ce dont il faut parler là maintenant, c'est de l'organisation de l'école de foi. Oui. L'école de foi, à l'origine, était dirigée par ce qu'on appelait l'ultima. Puis, au cours de l'histoire, l'Ultima a disparu en même temps que Setantra, parce que Setantra était le seul à avoir le contact avec les Ultimas. Donc, c'était lui qui établissait le lien entre les Setantriens et les Ultimas. Lorsque Setantra est assassiné, les Setantriens perdent le contact avec leurs Ultimas et doivent se contenter de leurs héritiers, que sont les Utrimas. Et les Utrimas dirigent les écoles au nom de leurs Ultimas. C'est exactement comme dans Saint Seiya, le grand pop et Athéna. Le grand pop dirige le sanctuaire au nom d'Athéna. Et bien, c'est exactement la même chose pour les Utrimas et les Ultimas. Les Utrimas dirigent l'école de foi au nom de l'Ultima. Mais ils ne sont pas l'Ultima, ils n'en sont qu'un héritier. Et chaque Utrima est protégé par 6 maîtres qui sont appelés des maîtres héritants.
C'est pas les méritants, ce mot-là?
Non, c'est les maîtres héritants là, pour l'instant. Et donc, les maîtres, on va pas parler de ça, Loïs. Ça fait partie de l'histoire et des choses que les gens peuvent découvrir. Donc, les maîtres héritants sont les gardiens de l'Utrima. Et après, les maîtres héritants forment les maîtres forment les disciples. Et donc, le but d'un Setantrien, c'est d'évoluer sur le chemin de la connaissance de l'élément. Et donc, pour ça, il va être amené à faire des missions. Typiquement, son maître va lui demander va voir.
L'objectif ultime, c'est devenir un maître héritant.
C'est de devenir un Utrima, carrément. C'est le
l'objectif ultime. Ultime, c'est je suis pas. Alors tous les Setantras sont pas obligés de suivre la voie que proposent les écoles de foi.
Non.
Ils peuvent papillonner d'école de foi en école de foi, devenir disciples, disciples.
Oui, bien sûr.
Il y en avait 4 à la fin.
Voilà, non, mais tout à fait, mais je le précise pour les auditeurs.
Excuse-moi, ouais.
C'est que les Sétentras, certains vont suivre l'école de foi à fond, d'autres vont papillonner pour prendre l'enseignement ça et là, ou même se faire leur propre enseignement.
Absolument.
L'objectif reste atteindre l'ultime sentiment. Et à chacun de trouver le chemin qui mène.
Le chemin qui mène, absolument. D'autres vont penser que l'ultime sentiment est dans l'opposition de l'eau et du feu, d'autres dans l'air et la lumière.
D'autres dans la combinaison de toutes les écoles.
Voilà. Et d'autres dans l'unité, c'est uniquement. Ça. J'ai entendu quelqu'un au cours de ce podcast, je crois que c'est toi, Aloïs, dire bah, finalement, on atteint plus facilement l'ultime sentiment en s'adressant directement à un truc simple.
Oui.
C'est-à-dire que tu vois, ça présuppose déjà que tu as une vision de l'ultime sentiment comme étant quelque chose de plus simple que la simplicité.
Oui.
Tu vois, et ça, c'est déjà une thèse très engagée au sujet de l'ultime sentiment.
Oui,
c'est
oui.
pas sûr que ce soit le cas. Tu vois.
Je ne voilà. sais pas que c'est le cas.
Voilà, c'est des exemples. Mais en tout cas, clairement, la quête et les enjeux au quotidien des Sédentriens sont des enjeux spirituels, culturels, artistiques, des enjeux existentiels, problématiques, voilà, un petit peu de voyage, rencontrer tel individu pour augmenter sa rune de feu, par exemple, va défier le seul pleureur de feu de l'école de machin pour tu vois, voilà, c'est ça.
C'est vrai que dans
Thomas,
si je compare sens néant par rapport aux autres sens, je dirais que dans les autres sens, généralement un scénar, c'est une enquête, une investigation. On va essayer de trouver des informations. Dans Sens Néant, je trouve que les scénarios, généralement, sont des scénarios de voyage, de rencontre.
On réenchante le monde, voilà, en fait, à chaque scénario.
On réenchante le monde, on le redécouvre. C'est vraiment, on n'est plus vraiment. Il peut y avoir de l'enquête, mais ce n'est pas l'enquête qui est principale.
Parce qu'il y a quand même des intrigues politiques liées à la
politique. Oui,
il y a
quand même
pas mal d'enquêtes, en fait, avec ce que les lectures sentimentales permettent.
Oui, bah après, c'est la façon dont tu le joues. Mais en tant que joueur, c'est la possibilité constante d'enrichir le monde par toi, en fait.
Moi, je trouve que dans Sens Néant, la force de ce jeu, bon, c'est ce que j'aime, hein. C'est effectivement ce côté voyage et rencontre. On peut faire un scénar complètement sur. Une enquête qui vous demande de partir de Mogoche pour aller ailleurs. Et le scénar qu'on va faire aujourd'hui, bah, c'est juste le voyage, la rencontre avec les gens et qui est super riche.
Ouais.
Parce que les gens qu'on va rencontrer vont pouvoir donner leurs propres avis. En plus, je trouve que les personnages de Sens Néant sont très hauts en couleur,
oui,
sont super attachants.
C'est classique.
Voilà. C'est vrai que moi, c'est un côté du jeu que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est cette relation.
Le MJ a un ensemble de PNJ à son service aussi pour montrer, pour aiguiller les joueurs sur la voie de la compréhension des différentes écoles de foi, c'est-à-dire qu'ils ont des archétypes, le meneur a des archétypes qu'il peut développer, dévoiler.
On peut faire, tu vois, par exemple, c'est clair, on peut faire de l'enquête, mais si tu veux, dans... Je dirais que quand tu fais de l'enquête, typiquement, tu vas aller chercher les indices. Là, dans Sens Néant, tu vas pas chercher les indices. Tu les questionnes.
Ouais, tu
te dis alors, dis-moi, grain de poussière, tu n'aurais pas vu quelque chose.
Et ça, c'est trop bien.
Et toi, la pierre là-bas.
Sachant que bien sûr, l'acide.
Flamme.
Donc le non-lien acide vient compliquer tout ça parce qu'on suppose que l'intégralité des myriadiens, et ça c'est précisé dans le background, est corrompue et commence à être corrompue par l'acide. Et donc du coup, il va y avoir un enjeu aussi politique. Tu dis pas ça à tes choix?
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, je suis pas. Vu que je ne dis pas grand-chose sur ce non-lien acide, mes joueurs ne savent pas
ce que
si tout le monde en a, s'il y en a qu'un nom,
ce que
personne n'en a, s'ils sont les seuls.
Quand même, c'est l'enjeu. Enfin, c'est un des enjeux aussi, c'est que la possibilité de mentir crée des intrigues politiques.
Oui.
Bah, c'est ça que je veux dire.
Oui.
C'est tout. Hein. Je suis pas en train de faire une grande révélation.
Moi, non, mais ce que je veux dire, c'est que plus que. Enfin, alors après, je sais pas comment on vous l'a dit, mais c'est vous avez de l'acide. On ne vous dira rien sur le reste.
Ah oui.
Certains pourront en avoir, certains ne pourront ne pas en avoir. Peut-être que vous êtes les seuls.
Déjà
peut-être
que
tout le monde en a.
C'est déjà que les PJ en ont.
Voilà, les PJ savent qu'ils en ont.
Mais il me semble que dans le background, c'est bien précisé que
l'intégralité des Sétentras a été souillée par l'acide.
Voilà, c'est ça, qu'au fur et à mesure du temps et à cause de l'assassin, l'intégralité des Sétentras a été. Ça crée des conflits.
Certes, c'est probablement qu'une toute petite tâche, mais normalement, ils sont quasiment tous censés l'avoir.
Et puis voilà,
parce que c'est de fil en aiguille, tu parles avec quelqu'un
parce
qui est
que
zaché.
Le but des myriadiens, enfin le but en tout cas des golems, c'est aussi d'enquêter sur ça et de combattre cette corruption. Et puis on va s'arrêter là sur cette belle ouverture.
Là, ouais.
C'est déjà vachement bien. Je vous remercie vraiment. Et puis on sent La passion, hein, putain, ouais. L'enthousiasme.
Bah, c'est notre préféré à Thomas et moi.
Ah,
ouais.
Ah bah, oh, et puis à moi aussi. Hein.
Ouais, carrément. Oula,
ça fait, pardon, ça fait pour plaisir. J'espère que Sens Néant ne va pas tuer Sens. Parfois, quand j'entends les gens parler de Sens Néant, je vois une telle passion. Je vois Loïs qui se crispe. Genre, depuis que j'ai joué à Sens Néant, les autres Sens m'intéressent beaucoup moins.
Ouais, ouais clairement, ouais. Je le cache pas.
Thomas, t'as un peu la même sensation.
Ah bah oui, j'aimerais bien refaire du Sens, mais oui, mon préféré, moi, c'est Sens Néant. Celui que je pourrais faire pendant des années.
Sens Néant a cette saveur de rêve. Tandis que les autres ont ce côté...
désabusé.
Non, justement ce côté beaucoup plus impliqué.
Ça fait un peu pause.
On prend parti, on est... Enfin, voilà.
En tout cas, c'est clair. S'il y a des joueurs qui nous écoutent, si vous êtes arrivé à Sens Néant que vous le faites, profitez. C'est des moments d'alchimie. C'est un moment où vous allez pouvoir rêver, voyager. N'hésitez pas. Parce que c'est vrai qu'après Sens Mort, vous en avez tellement bouffé.
Et c'est valable pour, c'est également valable pour les meneurs. Ouais. Voilà,
même pour les meneurs aussi, ça leur repose.
Et puis n'hésitez pas même après, avoir
prenez
fini
le temps,
Sens
parce que le temps que Cosmo sort.
Voilà, c'est et puis n'hésitez pas aussi en tant que meneur à pourquoi pas, à refaire des one-shots dans cet univers. Enfin voilà, c'est un univers dans lequel on peut revenir.
Ouais,
voilà, c'est un
vrai
grand
vrai
bac à sable.
En plus des joueurs, c'est vrai que le meneur se repose.
Moi je trouve que c'est beaucoup d'efforts faire Sens Néant, mais j'adore ça.
Non, moi ça me tellement naturellement, c'est trop bien.
Mais courir dans tous les sens comme Romaric le fait pour incarner ses personnages, ça demande de l'énergie. Il est crevé après chaque partie.
Tout le monde fait avec sa méthode.
C'est pour ça aussi qu'il a besoin de pause. Ouais. Allez, on va vous laisser là-dessus. Ouais. Nous aussi, on va vous laisser en pause. On va vous souhaiter une bonne semaine. Portez-vous bien. Jouez
au revoir.
Bien.
Allez,
à bientôt.
Plus.
Mentissez bien.
Allez, au revoir.
Mentissez bien.
Bisous.